Rencontre spéciale Ramadan. Un échange autour de l'islam avec Loïc Barrière.
Rencontre avec l'essayiste Asma Lamrabet à l'occasion du Ramadan. Émission en quatre parties, deuxième partie. Asma Lamrabet, vous connaissez bien la France et s'il y a un sujet polémique, c'est la question du voile que portent certaines femmes musulmanes. Vous écrivez que c'est un sujet de controverse aussi dans le monde arabe. Que disent précisément les textes sur le voile? Le Coran utilise le terme de hijab, mais vous l'écrivez, ce mot dans le Coran ne désigne pas le foulard que portent aujourd'hui certaines femmes musulmanes.
Oui, ça c'est clair et je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux par rapport à cette question-là du voile sur le plan sémantique, sur le plan étymologique. Il est prouvé que le terme de hijab qu'on utilise aujourd'hui est un terme plutôt politique, je dirais sociopolitique, qui a émergé avec dans les années 40-50, qui n'était pas utilisé par les anciens traditionnalistes, ni fuqaha, ni exégètes, et qui est un concept très moderne donc de l'islam politique. Dans le Coran, le hijab, on le retrouve 3 ou 4 fois, et ça veut dire un rideau, quelque chose qui sépare. Donc, certains interprètes vont forcer le texte dans un verset qui parle de ce rideau entre les femmes, les épouses du prophète et le prophète lui-même. Et c'était en fait un verset qui parlait du respect de la vie privée du prophète et qui n'a rien à voir avec une tenue vestimentaire. Par contre, il y a un autre verset qui parle donc pas d'une tenue vestimentaire, mais qui va décrire ce qu'on appelle le khimar et qui peut signifier voile ou écharpe qu'on met sur la tête ou qu'on met sur les épaules. Le Coran ne donne pas plus de détails que ça. Donc, un seul verset avec un autre qui parle de jilbab, qu'on peut comprendre comme étant un vêtement ample et qui là aussi, quand on voit les conditions les conditions historiques du contexte de la révélation, c'est aussi pour préserver des femmes qui sortaient le soir pour faire leurs besoins parce qu'il n'y avait pas de toilettes, etc. Donc le Coran leur demandait de bien se préserver dans leur jilbab, qui était un habit de l'époque. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose qui aujourd'hui, comme on le voit dans le discours islamique traditionnel, mais aussi officiel, de cette obligation, de cette focalisation sur le corps des femmes et sur cette question de sémantique et fausse, justement, de porter un hijab sur la tête alors qu'il s'agit premièrement d'un khimar. Donc cette focalisation n'existe ni dans le texte coranique, ni dans les interprétations premières qui étaient vraiment très patriarcales et misogynes. On n'a pas eu cette... C'est avec donc l'islam politique qu'on... Il y a eu réémergence de cette question-là sur le corps des femmes et sur cette question d'obligation de porter le hijab. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tout en étant, en tout cas à mon avis, je le dis personnellement, après avoir bien étudié les textes et les interprétations, je ne sens pas l'obligation de le porter, je sens une recommandation d'éthique. Une recommandation d'éthique vestimentaire, d'éthique du comportement, mais qui est proposée aux hommes et aux femmes. C'est ce qu'on oublie aussi. Donc, l'IBES, la question du vêtement, elle vient dans une métaphore que j'adore au niveau du Coran et qui parle de l'IBES, celle de l'éthique et de l'intégrité morale. Et le Coran dit que c'est ça la meilleure des éthiques, le meilleur des vêtements, le meilleur l'IBES. C'est justement celui de l'intégrité morale. Donc moi, ce qui me dérange aujourd'hui dans ce discours islamique très dominant, c'est cette focalisation sur l'islamité soi-disant ou la bonne musulmane qui doit porter le hijab, alors que premièrement, ça ne veut pas dire ça. C'est un glissement sémantique aussi que je critique parce que quand on parle de hijab aussi dans le sens de c'est voiler, c'est fermer, c'est marginaliser les femmes de l'espace politique public et c'est contraire vraiment à la philosophie et à l'éthique du Coran. Mais en même temps, je suis pour la liberté, la totale liberté de choix si les femmes musulmanes aujourd'hui ressentent ce principe-là, cette question de khima dans le Coran comme étant pour eux quelque chose qui fait partie de l'éthique spirituelle, donc du comportement vestimentaire, mais du comportement éthique, elles sont libres de le faire, et je suis très critique par rapport à ceux qui interdisent donc justement cette liberté de choix, mais tout en sachant être très critique par rapport à sa propre tradition et par rapport au discours aujourd'hui qui est instrumentalisé sur le corps des femmes.
Alors justement, vous parlez d'instrumentalisation du corps des femmes, c'est valable dans certains courants de l'islam, mais c'est valable aussi en Occident, où l'on critique de plus en plus le port du voile, considéré comme un signe d'asservissement. On a entendu de nombreux responsables politiques français donner leur avis sur le sujet, mais finalement, on entend rarement les femmes qui portent le voile s'exprimer sur le sujet. Comment expliquez-vous ces controverses sur le voile en Occident ? Est-ce que c'est en raison de la visibilité nouvelle de l'islam ?
Oui, sûrement, cette visibilité dérange, elle dérange même dans les pays arabo-musulmans, cette visibilité du voile, parce que c'est quelque chose de nouveau aussi, qui n'existait pas avant. C'est vrai qu'il y avait l'habit traditionnel, mais aujourd'hui, quand on parle de voile, on parle de ce vêtement foulard, avec donc une tenue qui est peut-être très très moderne, mais avec un foulard sur la tête, etc. Donc c'est une visibilité qui dérange partout. Alors, comme je vous ai dit, je critique donc effectivement cette logique totalitaire qui est dans les deux visions, celle donc de cette vision aussi en Occident, en France particulièrement, surtout au niveau très officiel, d'instrumentaliser la question donc du voile des femmes musulmanes à des fins un petit peu islamophobes, racistes, discriminatoires. On connaît ce discours-là, mais je ne peux pas faire cette critique-là sans faire des critiques au sein de ma tradition aussi religieuse et du discours aujourd'hui prégnant dans certaines communautés musulmanes en Europe et en France. Aujourd'hui, on ne peut pas, et c'est pour ça, si vous le dites bien, c'est pour ça qu'on n'entend pas ces femmes musulmanes parler. En fait, parce qu'elles sont culpabilisées. Elles sont doublement culpabilisées. Parce qu'elles ne peuvent pas trahir leur communauté musulmane, où il y a un discours qui les, je ne vais pas dire qu'il est terroriste, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui le font de façon libre, etc. Elles ne sont pas opprimées, elles le font vraiment par conviction spirituelle, mais aussi par fidélité. Par fidélité à son identité, à sa tradition. Et donc, croyez-moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Je ne vis pas en France ni en Europe, je ne parlerai pas au nom de toutes les femmes, mais je ressens, c'est quelque chose qui m'interpelle, cette question des femmes qui sont, c'est-à-dire à qui on ne donne pas la parole premièrement, et deuxièmement, qui sont des fois qui ne peuvent pas parler parce qu'elles ne veulent pas trahir leur identité musulmane. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on leur a dit que c'était une obligation coranique. Donc elles sont tiraillées entre le respect de cette obligation coranique qui est rabâchée par un certain discours islamique, et puis de l'autre côté, on leur rabâche que vous êtes opprimées, que voilà, que c'est une... elles sont discriminées par le discours donc non musulman, et donc elles sont tiraillées. Et je comprends ce tiraillement, je comprends cette culpabilité. Finalement, c'est toujours la même chose, ce sont toujours les femmes qui sont victimes de ces discours, qui se font de part et d'autre, à leur insu, et en ne prenant pas en compte leur fragilité au sein de donc des sociétés qui sont où la complexité, où le vivre ensemble est devenu très difficile, leur vulnérabilité par rapport à leur identité musulmane et à leur spiritualité. Donc tout ça n'est pas pris en compte. Il n'y a pas d'espace, enfin c'est ce que je vois, où elles peuvent parler librement de tout ça, parce qu'elles sont tiraillées entre leur légitime désir d'être émancipé, d'être libre, et puis de l'autre côté cette identité religieuse qui les rappelle à l'ordre à chaque fois. Moi, je ne sais pas si je me suis bien exprimée sur eux. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je ne vis pas là-bas. Je sens qu'il y a une complexité. C'est une question très complexe et qu'il faut donner la parole à ces femmes-là.
Et je crois que l'on a bien compris votre message. Je vais me permettre peut-être une question trop personnelle. Vous êtes libre de ne pas y répondre. Sur votre site internet, il y a des photos de vous. Vous portez le voile. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, je l'ai porté pendant plus de 18 ans. Je ne le porte plus depuis 3 ans maintenant ou 2 ans, par conviction personnelle. Comme je l'ai porté la première fois par conviction spirituelle, je l'ai enlevé aussi par la même conviction, par cette liberté de choix qui m'est donnée par ma propre tradition. C'est comme ça que je le sens et c'est comme ça que je le vis. Ça n'a changé absolument rien à ma façon d'être, à ma façon éthique, à ma façon spirituelle de vivre ma religion. Et j'ai trouvé que ce voile-là était trop instrumentalisé. Et voilà, c'est une décision que j'ai prise, mais tout en restant dans le respect de cette tradition-là, dans le respect des femmes qui le portent de façon libre, indépendante et assumée. Et pour moi, vraiment, le problème n'est pas au niveau de la question du voile, du comportement vestimentaire. Le problème est ailleurs et ce sont des faux problèmes, des faux discours qui nous empêchent, en fait, au sein des communautés musulmanes et au sein des sociétés arabo-musulmanes, de travailler sur l'essentiel qui est celui de revenir à une lecture éthique et spirituelle de notre tradition.
Alors, vous avez notamment écrit un article sur le thème « Le témoignage d'un homme équivaut à celui de deux femmes ». Vous vous inscrivez en faux contre certaines lectures réductrices des textes scripturaires de l'islam.
Absolument, absolument. Il n'y a pas que cette question. Il y a très, très nombreuses questions qui ont été complètement interprétées de façon erronée par aussi bien la jurisprudence islamique que par l'exégèse islamique. C'est-à-dire qu'on normativise, c'est-à-dire qu'ils sont devenus un référentiel sacré qu'on ne doit pas toucher, alors que ça reste des interprétations humaines, socio-construites, historiquement construites. Et même dans la jurisprudence islamique, même dans l'exégèse islamique traditionnelle, il y avait des divergences par rapport à ces questions qu'on nous présente aujourd'hui comme des questions immuables, qu'il ne faut pas toucher parce qu'elles font référence au texte, etc., ce qui est complètement fou. Sur cette question-là, justement, du témoignage, quelqu'un comme Ibn Taymiyyah, qui est connu comme étant quelqu'un de très radical et d'avoir qui a une vision, il n'avait pas cette vision patriarcale, justement. Et pour lui, c'est un verset qui est complètement historico-centré, qu'il faut remettre dans son contexte. Il estime, lui, mufti, juriste de son époque, que les femmes, quand elles sont compétentes, elles peuvent témoigner de façon égalitaire. Il compare avec d'autres versets coraniques où le témoignage est complètement égalitaire, mais la lecture patriarcale, c'est-à-dire elle s'est focalisée sur ce verset, le seul verset qui parle donc de ce témoignage inégalitaire, et elle a marginalisé tous les autres qui parlent de témoignages égalitaires. Plus que ça, il y a des contradictions énormes, on restera dans cet exemple-là. Ce verset-là, ce passage-là coranique est inscrit dans un verset coranique qui, pour la majorité des juristes musulmans traditionnalistes, est un verset normatif qui est absolument abrogé et qu'on ne tient pas compte pour les ahkam, pour les lois. Et cependant, sur la question du témoignage, parce qu'il est inégalitaire, on va ressortir cette inégalité pour justement forcer ces interprétations inégalitaires et pour montrer que les femmes sont toujours inférieures et ont un statut d'infériorité par rapport aux hommes.
Le Coran ne proclame pas l'inégalité entre les femmes et les hommes, contrairement à ce qu'affirment certaines personnes qui n'ont pas étudié les textes.
Oui, absolument. Moi, j'estime c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser le concept d'égalité homme-femme tel qu'il est aujourd'hui compris dans notre modernité. Aujourd'hui, l'idéal égalitaire dans les droits humains, etc., ce n'est pas l'égalité qu'on va retrouver. Donc, d'ailleurs, aucun texte religieux ne propose cette égalité-là parce que c'est un concept, c'est de l'anachronisme historique. Par contre, moi, je parlerai de justice égalitaire. Les finalités du Coran sont celles de la justice, al-adl, et d'une égalité qui soit dans ce concept-là de la justice. Donc, le Coran nous offre plus des latitudes éthiques d'égalité et de justice que vraiment des versets qu'on va dire, allez, égalitaires à 100%. Et donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, mais vraiment de contextualiser par rapport à nos besoins, nos défis donc de femmes et d'hommes musulmans qui vivent aujourd'hui dans cette modernité-là.
Merci Asma Lamrabet. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le prophète et les femmes de sa vie aux éditions El Bourak, une émission en quatre parties à retrouver sur radioorient.com.
Rencontre spéciale Ramadan. Un échange autour de l'islam avec Loïc Barrière.